Interview.
2 jours. Bonjour, ici R du Bois pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5. L'émission est aussi mise en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Anne Boucard. Bonjour.
Bonjour.
Et de Caroline Roux, bonjour.
Bonjour.
Toutes deux, vous êtes ici pour nous parler de la rentrée de l'espace France Service qui se trouve à l'ancienne maison des services au public. Et donc, elle est située
200 avenue de la Clairette, à Die, donc c'est sur le parking du CFPPA.
Cet espace France Service, qui est ouvert depuis un peu plus de 2 ans maintenant, propose un service d'aide et d'accompagnement pour les démarches administratives au quotidien, et du quotidien surtout. Et donc, ça a trait à l'emploi, la retraite, le logement, la famille, l'état civil, la justice aussi, autres. Alors, entre autres, on précisera, et la santé et le social. Alors, toutes deux, vous êtes ici pour nous parler un peu de cette activité. Est-ce qu'il y a effectivement une réelle demande d'un public auprès de vos services?
Oui, alors du coup, quand on était maison de service au public, pour vous donner un peu un ordre d'idée en termes de chiffres, on était aux alentours de 3000 passages par an en 2020. Voilà, et là, cette année, par mois, aujourd'hui en tout cas, on est à entre 400 et 500 demandes. Quand on parle de demandes, donc c'est pas en termes de personnes, c'est vraiment en termes de démarches. Donc ça peut être une personne qui vient pour plusieurs demandes, mais aussi des personnes qui viennent pour une seule demande, comme ça peut être le cas pour les demandes de retraite. Mais en tout cas, voilà, chaque année, on augmente la fréquentation. De plus en plus de personnes viennent nous voir pour être accompagnées et informées dans toutes les démarches administratives.
Cette demande va croissante. Est-ce qu'on peut expliquer cette raison ?
Oui, la principale raison, c'est que la plupart des démarches administratives sont dématérialisées aujourd'hui. Donc ça, depuis 2018, l'objectif 2022, c'est 100% des démarches dématérialisées. Donc effectivement, les gens se retrouvent face à Internet qu'ils n'ont pas ou auxquels ils n'ont pas forcément accès facilement. Et donc, ils se retrouvent face à des démarches qui sont des fois complexes, même souvent. Donc, ils viennent nous demander de l'aide. Puisqu'aussi les services en eux-mêmes ne sont plus du tout sur le territoire.
D'ailleurs, les services, vous allez pouvoir peut-être nous définir lesquels sont traités. Hein. Vous en parlez d'abord de l'emploi et des retraités. Vous avez commencé à en parler. Qu'est-ce qui concerne l'emploi alors ?
Donc, on va vous nommer les partenaires officiels. Puis après, il y a les partenaires non officiels, puisqu'on fait beaucoup de démarches qui sont hors de ces clous-là. Donc, les partenaires officiels, il y a l'assurance maladie, donc Pôle emploi, la CARSAT pour la retraite, la CAF, pardon, la Caisse d'allocation familiale, la MSA, qui est la Mutuelle de Santé Famille Retraite pour les agriculteurs ou salariés agricoles, les impôts. Et on est aussi point justice, donc on vous détaillera tout à l'heure, mais on fait de l'accueil aussi d'avocats. L'ANTS, qui est l'Agence nationale des titres sécurisés, un gros mot pour dire l'agence qui traite les cartes d'identité, passeports, cartes grises. Et on est aussi partenaire de La Poste.
Donc vous êtes en quelque sorte...
guichet unique.
Le guichet unique,
fois, c'est ça.
Mais en substitution, voilà. Donc ouais. Des services qui ont disparu petit à petit, hein, que ce soit au niveau de la préfecture, de la mairie aussi.
Alors pas forcément, non. Bah, parce que pour les cartes d'identité, notamment les passeports, qui passent encore par la mairie, si les gens ont besoin, la mairie fait encore ce type de démarche.
Et on fait les prédemandes qui sont nécessaires.
Cette démarche dématérialisée de nos jours, est-ce qu'il y a de réels problèmes justement pour le public d'accéder à ces services dématérialisés et que vous apportiez, vous, votre lumière pour les aider, c'est ça, hein. Mais est-ce que c'est des choses qui s'apprennent dans la durée après pour le public. Quand il vient vous voir, vous les aidez une ou deux fois et après ils acquièrent une certaine autonomie ensuite.
Alors il y a plusieurs facteurs qui font que les gens poussent la porte de notre service. Il peut y en avoir qu'un, comme ça peut être un cumul. On est un territoire rural, donc forcément il y a l'accès à Internet qui peut être très limité, voire absent, selon les lieux où les personnes habitent. Il y a la distance aussi des services publics, donc au lieu d'aller à Valence ou à Montélimar, ils vont venir jusqu'à chez nous. Il y a aussi les compétences numériques qui sont parfois insuffisantes ou absentes. Et une méconnaissance des droits aussi, parce qu'on a aussi quand même une bonne part où on va informer et orienter sur d'autres droits qui n'ont pas de rapport avec le motif de la visite des personnes. Et puis aussi l'outil numérique. Voilà, on peut très bien posséder un ordinateur et un smartphone et très bien s'en servir, mais on n'a pas forcément le scanner qui va avec, ni l'imprimante. Ou voilà, le jargon aussi utilisé par les formulaires administratifs qui peut parfois être complexe et faire peur. Et aussi, enfin, la crainte aussi de se tromper. Il y a des personnes qui maîtrisent très bien, mais qui ont vraiment peur d'envoyer de fausses informations, de ne pas faire correctement. Et il y a aussi autre chose, c'est le dysfonctionnement des sites Internet. Donc face à une première erreur et un premier échec, souvent les gens ils disent « bon, c'est pas grave, je vais aller à France Ferry, c'est là-bas, on va m'aider à trouver la solution ». Et du coup, la deuxième question, c'était...
Est-ce que le public acquiert justement une certaine autonomie par la suite, hormis ceux qui n'ont pas accès au numérique?
Alors du coup, au fil des années, depuis qu'on est maison de service au public, au début, on prenait le temps d'apprendre aux gens, d'être à côté d'eux, de leur expliquer le fonctionnement d'une souris, d'un clavier, etc. On prenait vraiment le temps d'aider les gens à être autonomes dans leur démarche. Ça reste encore dans nos missions, sauf qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps de le faire. Donc on est beaucoup plus dans un rôle de faire à la place d'eux. Alors on leur explique ce qu'on fait, on leur montre, mais on fait à leur place. Concrètement, on n'est plus du tout dans cette mission d'autonomisation parce qu'on n'a plus le temps et puis aussi parce que les personnes, ce n'est pas forcément ça qu'ils recherchent.
Puis après, il y a aussi les blocages administratifs où là, les gens viennent nous voir parce qu'ils ne savent plus comment contacter les institutions. Donc là, on devient relais juste pour mettre en lien l'institution. Et ça marche plus, même si on a des gens qui sont très compétents sur le numérique, qui ont accès à leur espace personnel facilement, mais qui sont renvoyés devant un blocage et donc sont obligés de rentrer en relation et que les numéros donnés sont de plus en plus inaccessibles. Les agences sont très loin et souvent maintenant inaccessibles sans rendez-vous. Donc, ils viennent aussi nous voir au secours pour dire « Est-ce que vous avez un contact plus privilégié ?» Ce qui est le cas souvent. Nous, en tout cas, avec les partenaires officiels, c'est le cas. On a quand même des contacts privilégiés.
Pour pallier au désert numérique, dans la Drôme et dans le Diwa notamment, et vous opérez aussi des itinérances pour proposer vos services. Pour ça, il y a plusieurs villages qui sont notifiés. Châtillon, Luz-la-Croix-Haute, Minglon, Luc-en-Diwa, Saint-Nazaire, La Motte-Chalancon et Val-Drôme. Donc vous y tenez une permanence assez régulière ou alors ça se fait par demande ?
Alors, hormis pour Luz-la-Croix-Haute, on vient dans chaque village sur rendez-vous uniquement. Donc, on nous appelle à l'avance et on occupe généralement les locaux de la mairie. Et à Luz-la-Croix-Haute, on a fait le choix d'y aller de manière régulière tous les mois, puisque c'est un lieu qui est donc très éloigné de Die et de la vallée du Rhône, où sont tous les services publics. Et les habitants ont une forte demande pour notre service.
Cette impression d'activité croissante pour vous, est-ce que vous sentez qu'elle va encore prendre plus d'essor ?
Tous les services ne sont pas encore complètement dématérialisés. Il y a des services qui existent, le service des impôts par exemple, il existe encore à Die.
Qui vont finir par l'être aussi, non ?
On ne sait pas, on n'espère pas. Là, on vient d'apprendre la fin de la permanence de la sécurité sociale dans nos locaux.
Donc, primaire d'assurance
maladie. La CPAM, Caisse primaire d'assurance maladie. Donc c'était un peu le dernier lien physique qu'on avait avec eux ici. C'est terminé. Donc à chaque fois, nous, ça nous met de plus en plus en difficulté face aux demandes qui sont plus ou moins complexes. Et donc effectivement, on imagine que si on est le dernier recours et si on le devient de plus en plus, effectivement, les demandes croissent. Et on a fait des rencontres avec d'autres France Services de la Drôme. Et c'est le cas pour tout le monde. C'est pas lié à notre structure. C'est vraiment lié à la dématérialisation croissante. et à l'absence des services en milieu rural.
Il y a aussi quand même une grosse communication qui a été faite par l'État. Au niveau national, au niveau local, ils ont énormément communiqué sur les francs services. Donc il y a eu ça aussi, je pense, qui a entraîné un accroissement.
Oui, le président Macron a cité les espaces France Service il y a quelques semaines, lors d'un déplacement.
Oui.
C'est une réelle prise en compte, mais suffit-elle à répondre aux attentes ?
Alors concrètement, on n'est pas du tout ces services publics-là. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas les compétences d'un agent de la CARSAT. Nous, notre avantage, notre force, c'est qu'on est formé par ces partenaires. Et aussi, voilà, on a développé forcément nos compétences, on a développé nos connaissances sur les droits. Et on reste quand même des médiateurs et médiatrices qui donc avons les mêmes accès aux comptes des personnes. Donc on n'a pas de visualisation particulière ou privilégiée sur les droits des personnes dans ces services publics-là. Et aussi le fait que les France Services soient des labels, en fait, c'est en aucun cas une structure. Donc ça entraîne quand même un questionnement sur la fragilité et la non-pérennité de ces lieux. Et qui peut être quand même à mettre en relief avec les besoins accrus de ces services pour les habitants.
Vous orientez, vous informez, vous facilitez l'accès aux services dématérialisés. Vous accompagnez effectivement pour les démarches administratives. Mais est-ce qu'il est en prévision, dans un futur, peut-être d'augmenter d'un ou deux postes cet espace pour justement répondre correctement ?
C'est donc déjà pour répondre à l'autonomisation, en tout cas numérique, il y a deux conseillers numériques qui ont été embauchés par la mairie et la communauté de communes, donc qui ont plus ce rôle-là d'inclusion numérique, comme on dit, pour dire qu'en fait, ils sont vraiment dans l'accompagnement, dans l'autonomisation numérique, sans même parler de démarche, c'est-à-dire accéder à une boîte mail, regarder ses photos, envoyer une photo, enfin voilà, des choses du quotidien numérique. Et qui sont parfois aussi liés aux démarches. Ils interviennent à l'espace France Service, à d'autres endroits à Die.
Et dans le Diois.
Voilà, dans le Diois. Et donc, nous, effectivement, il faudrait... En fait, il y a plusieurs questions, comme disait Caroline tout à l'heure. Il y a la question de la pérennisation du service. Et, alors, je ne sais pas les priorités, mais il y a la pérennisation. En tout cas, ça paraît une des priorités. Il y a le portage, parce que pour l'instant, on est porté par le CFPPA, qui est donc le Centre de formation professionnelle agricole, qui nous porte parce qu'ils l'ont fait historiquement. Le financement de l'État ne répond pas du tout à tous les besoins. Ça finance à peu près moins de la moitié du budget total. Et puis, effectivement, la question du développement, de la pérennisation de nos contrats, de l'ouverture d'un troisième temps plein. Voilà, c'est toutes des questions en suspens et qui, pour l'instant, ne sont pas résolues du fait que ce n'est pas une structure, en fait, et qu'il n'y a pas, que c'est quelque chose un peu de flottant dont personne ne veut et dont tout le monde a besoin. C'est un peu contradictoire.
Vous parliez de deux personnes, donc au niveau municipal, qui opèrent pour justement porter l'acquisition de l'outil informatique. Ces personnes sont présentes dans vos locaux ou alors elles sont détachées sur d'autres lieux ?
Alors du coup, il y a deux conseillers numériques France Service, ils sont appelés comme ça. Donc là, c'est pareil, c'est une réponse à un appel à projet qui a été donc fait par la ville de Die pour Delphine Rodniansky et Emmanuel Mourier pour la communauté des communes qui, lui, du coup, va se déplacer sur tout le territoire. Et donc, il se déplace dans les différentes mairies, il va à la rencontre aussi d'autres partenaires. Et sur le territoire, on a plusieurs EPN, donc des espaces publics numériques. Et ce sont dans ces lieux-là, en fait, que les conseillers numériques vont aussi se déplacer. Donc, ils vont à l'espace social, ils vont à l'atelier, ils vont au TIS de la vallée de la Roanne, à l'EPI du Val-de-Quin.
Et à Luce-la-Croix-Haute aussi.
À Luce-la-Croix-Haute, voilà.
Diois Connecté, ça fait partie un peu de votre processus aussi. On peut voir sur les réseaux sociaux des annonces parfois, et notamment celles en ce moment de piratage de comptes administratifs ou bancaires. Est-ce que vous êtes là aussi pour prévenir ce public et comment s'en défendre ?
Justement, Diois Connecté, c'est justement un peu ce qui a permis la création des postes des conseillers numériques. C'est nous, les EPN, qui avons un peu poussé les collectivités à se lancer dans cet appel à projet. Donc, on travaille ensemble et la communication qu'il y a sur Internet, c'est notamment eux qui l'animent. Et effectivement, en ce moment, on travaille donc tous ensemble sur des événements sur la cybermalveillance, donc qui regroupe effectivement le tout ce qui peut être arnaque, harcèlement en ligne, voilà, tout ce que aujourd'hui on connaît de plus en plus. Et voilà, donc prochainement, il va y avoir des événements sur le territoire pour lutter contre ça et faire de la prévention.
Des séances publiques.
Oui, alors du coup, on va se déplacer sur les marchés. On va mettre en place des expositions sur différents lieux de DIY et du DIY, où il y a du passage du public. Et également, on va essayer de, si on y arrive, programmer un ciné-débat sur le sujet.
À l'image des emplois à l'espace France Service, est-ce que le parc informatique est suffisant, d'ailleurs, à votre espace ?
Pour l'instant, il répond à la demande. On a 6 postes en accès libre. Ils sont de plus en plus utilisés. Donc pour l'instant, ça fonctionne. Mais à venir, on ne sait pas trop si ça, s'il y a plus de demandes. Peut-être à un moment, ça sera insuffisant, mais... Pour l'instant, ça va. Et après, une autre chose qu'on n'a pas dite par rapport au conseil numérique, c'est qu'il propose des ateliers numériques. Donc des ateliers qui sont gratuits, ouverts à tous, qui est chacun qui veut se former à l'usage des outils numériques peut venir participer à des ateliers le mardi et le mercredi après-midi à l'espace France Service. Et à l'atelier et à l'espace social, il y a aussi des ateliers qui sont proposés par Emmanuel et Delphine.
La formation, on en a parlé, mais la formation, c'est vaste. Vous proposez, vous, avant tout, les démarches administratives, mais est-ce que vous allez parfois au-delà aussi ?
Alors, l'au-delà, nous, dans lequel on va, c'est plutôt l'au-delà des partenaires. Parce qu'on est, comme je disais tout à l'heure, guichet unique, c'est-à-dire quand quelqu'un arrive parce qu'il a perdu son conjoint, il a perdu sa sœur, eh ben, il nous dit bah, « voilà, je dois contacter la caisse d'assurance maladie, je dois contacter l'assurance, la mutuelle ». Donc en fait, on répond à sa demande globalement. On va récupérer les justificatifs chez l'un ou l'autre et puis on va traiter la demande chez chaque partenaire, qu'il soit officiel ou non pour nous. Et on ne va pas lui dire ben non, en fait, l'assurance, ce n'est pas nous, allez voir ailleurs. Et comme la plupart des institutions aussi privées, comme les banques, les assurances, les mutuelles, dématérialisent aussi, et ben, en fait, les gens sont dans les mêmes blocages que vis-à-vis des autres partenaires. Donc, effectivement, là, on dépasse nos missions, mais ça devient aussi. Un service qui est un peu indispensable. Enfin, voilà, c'est, pour nous, c'est délicat de renvoyer la personne chez elle et lui dire de se débrouiller toute seule, quoi.
Alors, il y a les partenaires, hein, avec leur permanence. La CAF, c'est toujours en cours. La caisse primaire, comme vous le disiez, a fermé son service. La mutuelle sociale agricole, ça tient aussi. Les avocats, conciliateurs de justice, défenseurs des droits, tout ça, ce sont des permanences que l'on peut avoir par rendez-vous, hein, comme vous le disiez.
Ouais.
Et puis ensuite, il y a d'autres partenaires comme les Chouettes,
oui.
Ou Solidarité, Femmes du DIY, Air Trésor, Rêve Psy, ça je ne connais pas. Solidarité Paysan et ADI. Donc, il y a aussi une part de présence. Pour quel aspect ?
Bah, pour l'aspect, tout ce que vous avez cité, c'est à la fois, on est un espace d'accompagnement administratif, mais aussi social. Donc, pour nous, c'est aussi... On a voulu ouvrir à des associations locales qui peuvent accompagner les gens dans tout ce que la vie quotidienne peut nous en tout cas on peut être confronté à des choses très
des aléas.
Voilà, les aléas, c'est ça, les aléas de la vie quotidienne et donc qui demandent une réponse administrative mais aussi un soutien psychologique. Un accompagnement sur la durée et donc chose que nous on n'est pas compétent pour faire et donc on aime s'associer avec d'autres associations locales pour le faire.
Et du coup ça fait un peu rebond avec ce que tu disais avant, c'est que comme on est un lieu où en fait on va traiter beaucoup de demandes et répondre à une variété de questions, c'est pertinent en fait d'avoir des partenaires variés dans nos locaux puisque on a des questions sur comment je vais rénover mon logement. Bah du coup voilà, on les oriente vers la plateforme de rénovation énergétique. Si c'est des problèmes, enfin si c'est des questionnements sur une création d'entreprise, ça va être l'ADI. Alors pour ces deux partenaires, ils sont conventionnés avec la CCD, mais du coup la pertinence c'est qu'ils soient plutôt dans un autre lieu pour que voilà, y ait vraiment ce lien et ce relais en fait avec les services qui existent ici. Pour les chouettes, c'est pareil. On a un rendez-vous. En fait, on a un bureau où voilà, ça permet de garder une certaine confidentialité et on peut recueillir voilà des paroles de femmes ou de personnes qui peuvent avoir vécu des violences dans leur famille et ça nous permet voilà d'orienter, de dire bah tiens, la semaine prochaine il y a une permanence des chouettes, vous pouvez vous y rendre et ça voilà, ça a vraiment tout son intérêt. Qu'on ait d'autres partenaires que les officiels.
Je ne t'avais pas précisé, Remède aussi, hein, France Victime 26, donc de la Drôme. Tous ces services sont aussi accessibles par rendez-vous. Air Trésor, quelle est sa participation auprès de vous? Qu'est-ce que ça permet, par exemple?
Bah là, du coup, c'est Air Trésor qui vient en permanence en séance d'information avec des personnes qui eux-mêmes voilà, ont eu au téléphone ou alors des personnes que nous, voilà, on aura orientées sur ce moment d'information. Et l'idée, c'est voilà, que comme c'est un public qui va être en recherche d'emploi et en réinsertion, on a aussi ce public-là dans nos locaux. Donc, ça permet déjà de, voilà, d'avoir un lien privilégié avec la personne qui vient et d'orienter et voilà, de partager différentes informations sur l'emploi, la réinsertion.
Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir une demande à laquelle vous ne pouviez pas répondre ou se aider?
Oui, ça arrive. Et dans ces cas-là, c'est pour ça aussi qu'on a d'autres partenaires, comme le CMS. Voilà, quand les situations, on considère qu'elles sont au-delà de nos compétences, on va orienter vers les assistantes sociales. On peut orienter vers la chargée de mission à l'économie de la communauté des communes quand il s'agit de création d'entreprises. On connaît bien notre territoire, on connaît bien les partenaires et quand on n'a pas la réponse ou qu'on n'a pas les compétences suffisantes et qu'on sait qu'elles sont présentes, on n'hésite pas à orienter, notamment vers le service des impôts qui est toujours présent à Die pour les particuliers.
Cette activité pour vous, ça nécessite aussi une formation en permanence?
Une formation auprès des partenaires pour connaître les différentes réformes, il y en a souvent. Les différentes allocations qui existent, les différents droits que les gens auxquels ils peuvent recourir. Et puis une formation aussi liée à l'expérience qu'on a et à la pratique des sites, des démarches en elles-mêmes. Et puis une formation aussi en tant que travailleur social. Je mets ce mot un peu énorme pour dire, mais c'est quand même un travail social et on accompagne les gens dans leur vie, dans un moment de leur vie. Mais ça demande aussi de l'écoute, de la patience, de la débrouillardise et tout ça. On l'apprend ça nous fait un peu défaut en termes de formation professionnalisante. C'est-à-dire qu'on n'est pas professionnellement formé pour ça et c'est un peu dommage. Mais on se forme en tout cas au jour le jour, c'est sûr.
Il peut y avoir parfois des tensions, c'est rare j'imagine. Est-ce que vous arrivez à les gérer aussi?
Les tensions, c'est assez rare quand même, on va dire. Une fois par an, ça peut nous arriver. Et souvent, ça peut être entre individus dans les locaux, mais rarement envers nous, en fait. Ou envers un partenaire qui va venir tenir une permanence. C'est arrivé aussi dans ce sens-là. On peut avoir des personnes dans des situations personnelles très fragiles et très difficiles. Mais on a toujours réussi, en fait, à apaiser, en tout cas sur le moment, la situation et à la gérer. Sans que voilà, ça parte dans des... Dans des situations conflictuelles, on pense quand même qu'on est sur un territoire où voilà, on a quand même cette chance d'avoir un public bienveillant, je trouve.
Pour vous connaître, il y a certainement un site internet pour connaître les horaires, les disponibilités, j'imagine. Non, pas
oui,
forcément.
Si, il y en a un, mais du coup, ça va être le site du CFPPA. Où on a un petit onglet en haut à droite qui nous est réservé. Sinon, pour les personnes qui sont utilisatrices de Facebook, on va mettre... tout est à jour. Et on a également aussi sur le site de l'Agence nationale de la cohésion des territoires un recensement de toutes les France Services. Donc, ça peut être intéressant pour des personnes qui, parfois, sont un peu mobiles. Elles peuvent avoir connaissance de toutes les France Services qui existent dans la Drôme et ailleurs. Auquel cas, le téléphone fonctionne très bien quand on arrive à y répondre. Donc, le 04 75 22 31 87.
Une dernière question. Là, en ce moment, il va y avoir des animations autour de la mobilité. Est-ce que votre espace France Service répond justement à toutes les personnes pour son accès?
Ben, pour son accès, plus ou moins, parce qu'il est en dehors du centre-ville, donc il y a sûrement certaines personnes pour qui c'est compliqué de venir. Après, nous, on y voit aussi un avantage, c'est que les gens qui viennent de plus loin peuvent venir se garer plus facilement qu'en centre-ville. Et après, on est aussi, du coup, espace d'information sur les possibilités de transport solidaire, de transport en commun qui existent sur le territoire. Et voilà.
Et juste une petite dernière information, on a les journées portes ouvertes des France Service qui s'organisent au niveau national, où chaque France Service est libre de le faire ou non. Et donc nous, cette année, on a choisi d'aller sur les marchés. Donc on sera présent sur le marché de Die le 5 et 12 octobre, et sur le marché de Luc-en-Diois le vendredi 7, et sur le marché de Châtillon-en-Diois le vendredi 14. Puisqu'on est ouvert toute l'année, on s'est dit autant externaliser notre présence.
Tout ça sera indiqué hein, sur votre site.
Oui. Et il y a encore autre chose, pardon, sur ces journées portes ouvertes, il y a la CARSAT qui va venir faire deux temps d'information le mardi 4 octobre à 11h et à 16h dans nos locaux. Donc il y aura un ou deux agents de la CARSAT qui vont venir. Donc vous êtes les bienvenus pour venir leur poser toutes vos questions.
On peut juste présenter ce qu'est la CARSAT pour les auditeurs, hein, et pour moi aussi, parce que
oui.
J'ai déjà peut-être entendu ce nom, mais il ne me parle pas.
Oui, excusez-moi, on parle avec nos acronymes. Donc la CARSAT, c'est la caisse de retraite du régime général. Voilà.
Merci bien. Eh bien, Caroline Roux et Anne Boucard, je vous remercie toutes deux d'être venues sur RDOA pour nous parler de la rentrée France Service avenue.
De la Clairette.
Merci.
Tout simplement.
Voilà, aux locaux du CFPPA.
À côté oui. Du CFPPA. Ouais.
Bonne soirée.
Merci.
Au revoir.
Interview.
Okay. Bye-bye.